BFM Business partenaire.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans ce nouvel épisode BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group. On va parler de décarbonation. Est-ce que c'est ça peut être un avantage compétitif pour les entreprises? C'est vrai qu'aujourd'hui, entre la transition énergétique, les tensions géopolitiques, on a l'impression que c'est un sujet qui était un peu mis de côté. Puis on voit pourtant 85% des PME ETI européennes prévoient de maintenir ou d'accélérer leurs efforts de décarbonation. Donc on va essayer de comprendre un peu tous les enjeux autour de tout cela avec nos deux invités. Mehdi Ifoura, bonjour.
Bonjour.
Mehdi, vous êtes chef de projet senior au BCG, expert des sujets climat. Et Simon Guichard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé chez Argos, un fonds d'investissement qui soutient la croissance des PME et des ETI européennes. Et je démarre avec vous, Simon, justement. L'engagement des PME et des ETI européennes, ce que je viens de dire à l'instant, ne semble ne pas fléchir, non, c'est ce que vous remarquez?
Absolument. La décarbonation.
Alors qu'on pourrait penser le contraire, en se disant, il y a d'autres priorités aujourd'hui.
Absolument. Alors, si on ouvre sa fenêtre cette semaine, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'autres priorité que de lutter contre le réchauffement climatique.
Je crois que
tout le monde a pu le constater. Et dans les chiffres, pour les PME, finalement, c'est pareil. On étudie un baromètre qu'on lance chaque année, qu'on a lancé il y a 4 ans maintenant, qu'on refait tourner chaque année avec le BCG. On interview 750 dirigeants de PME et ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire et les petites et moyennes entreprises. Et à chaque fois, la réponse est la même. La décarbonation, c'est un sujet stratégique, c'est un sujet critique pour 88% d'entre elles. Et c'est un chiffre qui est resté haut pendant 4 ans.
Et ce que je disais c'est un avantage compétitif, c'est ce qui est en train de changer aussi. Que ce soit dans un axe stratégique, ça va, on l'a compris, ouais. Et qu'ils puissent en dégager de la création de valeur, un avantage compétitif, ça c'est un peu nouveau.
Ça c'est une grosse nouveauté de l'année 2026. Plus d'une entreprise sur deux constate sur le terrain un avantage compétitif à la décarbonation. Ça veut dire qu'elle constate des bénéfices. Alors pour une PME ETI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire payer son énergie moins cher, avoir accès à des financements plus intéressants, ou même gagner des contrats, gagner des marchés.
Alors, une sur deux de ces PME ETI qui observent un avantage concurrentiel, bon, comme on est dans des secteurs différents et tout ça, certains vont dégager un très fort avantage, d'autres un peu moins fort. Comment on peut analyser tout ça, Mehdi?
Alors, cette tendance, on l'observe dans tous les secteurs. Il y a un point de méthode qu'on observe aussi partout, c'est que celles qui investissent de façon structurée sont celles qui obtiennent les meilleurs résultats. Mmh. Investir de manière structurée aujourd'hui, c'est j'ai fait un bilan carbone, scope 1, 2 et 3, j'ai identifié des leviers que je mets en face de chacune des poches d'émissions. J'ai priorisé ces leviers en fonction, un, de leur impact carbone, mais aussi de la valeur business qu'ils ont. Et j'ai mis en place des KPI, des métriques qui me permettent de les suivre dans le temps. On pourrait dire qu'il y a 4 grands archétypes d'entreprises. Il y a les pionnières, qui sont celles qui investissent de façon structurée, qui obtiennent les meilleurs résultats. De l'autre côté du spectre, on a celles qui ont très peu investi, qui n'ont pas de plan parfaitement structuré aujourd'hui, et qui sont celles qui obtiennent les moins bons. Et entre les deux, on a celles qui parfois ont investi de façon un peu isolée et un peu opportuniste sur certains projets, mais sans un plan de cohérence qui est lié à la stratégie et auquel cas elle ne tire pas tous les bénéfices de la décarbonation. Et il y a celles qui ont voulu investir, qui ont un plan, mais qui n'ont pas accédé au financement, et on en parlera sûrement, pour lesquelles, encore une fois, on n'a pas non plus tiré
tous les bénéfices. Et là, on est tout secteur, toute région, parce qu'on pourrait dire, certaines régions, je sais pas, du Sud, ils pourraient y faire un peu plus attention, ou le secteur industriel, ou je sais pas, où il y a un peu plus de consommation d'énergie. Là, c'est, enfin, voilà, des pionniers, on en retrouve partout.
Et on en retrouve dans tous les secteurs. Et donc, alors, il y a des secteurs qui mécaniquement tirent plus à décarbonation parce que c'est des secteurs qui sont plus émetteurs que d'autres. Il y a aussi des régions qui sont plus en avance.
Oui.
La France est une des régions qui est en avance sur la décarbonation. Alors, pas forcément sur le volet tirer un avantage compétitif, en tout cas sur l'intention stratégique qui est derrière et les initiatives qui ont été mises en place par le passé. On a aujourd'hui 9 entreprises sur 10 en France qui disent que la décarbonation est une opportunité et on en a un quart qui ont investi.
D'accord.
C'est quand même significatif.
Ouais, et puis et malgré tout, on voit, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille, quelle que soit la région, les pionniers, eux, ils dégagent,
de meilleurs résultats.
Et
l'ordre de grandeur, c'est on a un peu plus de la moitié des entreprises qui obtiennent des avantages compétitifs. Chez les pionniers, c'est quasiment 2/3. Mm-hmm. Chez ceux qui investissent très peu, les retardataires, on est plus proche de 1/3, ouais, voire 40%. Okay.
Donc, il faut y aller. Et Simon, justement, Guichard, quand on parle de décarbonation, on s'attend toujours à des choses un peu classiques. Hein, on fait attention à ses bâtiments, ses déplacements, etc. Est-ce que c'est là que se joue la transition ou on commence à voir d'autres axes, un peu d'autres leviers, en tout cas, de décarbonation?
Ce qu'on constate, c'est qu'il faut passer un petit peu à la vitesse supérieure.
Ouais.
C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises arrivent à tirer des bénéfices de la décarbonation. C'est un moteur de croissance, c'est un moteur de marge. Mais pour ça, il faut dépasser un peu les actions gains rapides. changer les ampoules pour des LED. Oui. Disons que ça a déjà été fait dans la plupart des entreprises. Maintenant, il faut aller toucher au cœur de métier. Et ce que montrent les chiffres, et notamment dans notre baromètre, c'est que une entreprise sur deux ont commencé à faire évoluer leur modèle économique. Mmh. Ça veut dire créer une nouvelle offre, par exemple, plus vertueuse. Et 6 sur 10 ont commencé à mettre en place des démarches d'éco-conception. Donc la chasse au gaspillage qu'on a en tête pour la décarbonation facile, assez finie. Maintenant, il faut passer à des actions beaucoup plus structurantes.
Oui, et certaines donc sont en train de revoir, elles repensent le produit dès sa conception. Je crois que vous avez quelques exemples là-dessus.
Ouais, exactement. Donc par exemple, Mustela, les cosmétiques bébés, ont repensé toute leur gamme pour intégrer la recharge des produits et les ingrédients biosourcés. On connaît aussi les baskets Veja qui, depuis le début de leur expansion, ont surfé sur la traçabilité de leurs matériaux. Ce sont deux exemples d'entreprises qui ont mis vraiment la décarbonation au cœur de leur stratégie, non pas par simple ambition climatique, ce qui est déjà très bien, mais aussi pour aller en tirer un avantage économique. Mmh.
Et est-ce que les entreprises, alors on le voit, on vit cet épisode de canicule, on voit que les entreprises sont pas forcément prêtes hein, autour de tout ça, mais derrière, et on en verra certainement cet été, il y aura des inondations, malheureusement tous ces épisodes vont certainement survenir, ça touche déjà les chaînes de production, les entreprises ont compris là que ça avait cet impact aussi.
Oui, c'est concret, et aujourd'hui on a 6 entreprises sur 10 qui ont déjà vécu au cours des 3 dernières années un événement climatique majeur.
Ah oui.
Donc c'est les vagues de chaleur comme on les connaît aujourd'hui, mm-hmm. c'est les grêles, les inondations, les vagues de neige intenses comme on les a connues au cours des dernières années. On en a 6 sur 10 qui ont connu un événement majeur, on en a 1 sur 10 qui est préparée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui a mesuré les risques auxquels elle était exposée. Et il y a deux éléments intéressants sur l'adaptation. Il y en a un qui est ce ne sont pas les pays qui sont les plus avancés en matière de décarbonation qui sont les plus avancés en matière d'adaptation.
Ah oui.
La France est très avancée sur la décarbonation, en revanche très en retard sur l'adaptation. Pour autant, on n'est pas moins exposé que mm-hmm. les autres. Une deuxième observation, c'est que celles qui sont le plus actives sur ces sujets, ce sont les grandes entreprises, parce qu'elles sont au bout de chaîne de valeur, oui. elles accumulent tous les risques de chacune des étapes, et donc mécaniquement, ce sont celles qui ont pris le sujet en premier. On a vu au cours des dernières années beaucoup d'exemples dans l'industrie automobile, de chaînes de valeur, de sites de production qui se sont parfois arrêtés, parce qu'une des étapes, justement, a été interrompue, donc mm-hmm. dans le sud de l'Europe, pour une inondation ou autre, il manque une pièce, il manque un composant, donc on arrête toute la chaîne de valeur. Les impacts peuvent être significatifs.
Non, en plus, vous parlez de la chaîne de production, mais ça peut être aussi pour les collaborateurs qui peuvent pas accéder au site. Là, moi, je disais des choses avec la canicule, le nombre de décès est beaucoup plus important dans le domaine du BTP. Donc, ouais. du coup, on réduit sur les chantiers. Donc, ça veut dire on allonge le temps de chantier. Ça veut dire qu'on décale d'autres choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous aviez des exemples hein, chez Porsche et tout ça.
Ouais, Porsche, c'est l'exemple le plus marquant qu'on ait ces dernières années. C'est ils ont arrêté leur production pendant quelques jours. Même quelques semaines, parce qu'une des usines d'un de leurs fournisseurs dans le sud de l'Europe avait été inondée. Donc arrêt de production de l'aluminium, donc arrêt de production. Et donc le cours de bourse a tout de suite été impacté. On a perdu quelques points à la journée. C'est des éléments qu'on peut anticiper. Et donc pour les entreprises, il y a un enjeu d'adresser ces sujets pour deux raisons. Un, montrer à vos partenaires que vous êtes résilient, que vous êtes capable d'assurer une continuité de service et donc de fournir vos produits dans la durée. Mmh. Et il y a une deuxième raison qui est, il y a des solutions à apporter. Ouais. Dans la construction, dans la gestion des réseaux de chaleur, dans la gestion de crise.
Et puis anticiper tout ça.
Exactement.
Souvent, on règle le sinistre et puis on ne regarde pas la suite. Simon, justement, en parlant de la France, elle investit massivement dans la décarbonation et pourtant, elle peine à en tirer des avantages concurrentiels. Comment on explique un peu tout ça?
C'est le paradoxe que tu soulignais tout à l'heure, Mehdi. Et on l'explique avec deux raisons principales. 90% qui investissent, mais un quart qui constate un avantage compétitif, c'est moins que tous nos autres pays européens. Et les deux explications, c'est que la France a commencé plus tôt à se décarboner et que le mix énergétique et notamment électrique est plus décarboné. C'est-à-dire que les gains rapides sont plutôt derrière nous.
Oui.
Et maintenant, les entreprises françaises ont besoin de s'attaquer au cœur de leur métier, créer des nouveaux produits, faire de l'éco-conception pour justement tirer un avantage compétitif.
Et alors, ça marche, la réglementation, elle est là aujourd'hui, mais elle n'est pas suffisamment significative pour se dire je dois y aller. Sur certains points, oui, les gains rapides, oui.
Absolument. Il y a plein de choses qui tirent la décarbonation et la réglementation, c'est un d'entre eux. Dans les autres moteurs, il y a vraiment, par exemple, exemple les clients, qui mm-hmm. est un des moteurs principaux de la décarbonation.
Si c'est pas dans le contrat.
Exactement. Et quand vous voyez un pays comme l'Allemagne, avec beaucoup de grands donneurs d'ordre dans la chimie, dans l'industrie, dans l'automobile, qui tirent toute leur chaîne de valeur parce qu'ils imposent la décarbonation à leurs fournisseurs, bah, il y a une dynamique qui est plus importante que la France ouais. dans l'avantage compétitif grâce aux clients.
Ouais, faut que le client exige et donc là, du coup.
Et là, le fournisseur suit.
Et Mehdi, au-delà du cas français, qu'est-ce qui bloque les entreprises encore qui n'ont pas franchi le pas?
Le principal frein aujourd'hui, c'est le financement. Ouais. C'est le cas pour une entreprise sur deux. Et c'est pas du tout par scepticisme climatique ni par absence de volonté d'investir. Quand on parlait tout à l'heure de retardataires, les retardataires, ils reconnaissent l'opportunité. Mmh. Ils n'ont juste pas eu l'accès au financement qui permette de lancer les projets.
Ah oui, c'est ça.
Et donc le financement aujourd'hui doit venir de plusieurs sources. Il doit venir du public quand l'action doit être coordonnée à l'échelle d'une industrie, d'une chaîne de valeur, qui a un nouvel équilibre économique à trouver. Il doit venir des banques qui doivent accompagner les entreprises pour les aider à définir le bon business case ou le bon cas économique mmh. pour que les projets soient viables, mais il doit aussi venir de la part des actionnaires. Et nous, ce qu'on voit aussi dans le rapport, c'est que les entreprises qui sont souvent accompagnées par des fonds d'investissement, c'est-à-dire qui apportent un peu de méthode, un peu de structure, mais qui apportent aussi des capitaux, obtiennent de meilleurs résultats et font partie souvent des pionnières qui, eux, voient le plus d'avantages compétitifs.
Mmh. En tout cas, ce qui est clair, Simon, c'est que enfin, les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, faut plus faire en 2026, il ne faut plus faire l'impasse sur la décarbonation. Bon, encore plus ces jours-ci, on se prend cet épisode caniculaire sur la tête. Mais il faut se dire que ça peut devenir un avantage compétitif.
Voilà, c'est vraiment ça le message pour toutes les PME et ETI, celles qui n'ont pas encore assez bougé peut-être. Bah, vous pouvez tirer un avantage compétitif de la décarbonation dans votre marché, le transformer en avantage économique réel.
Mmh. Et Mehdi, ce que j'ai compris, moi, c'est que plus on est pionnier, exactement. Enfin voilà, si on est pionnier aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont plus avancés que nous, mais enfin faut essayer de se mettre dans ce mouvement, parce qu'il y a vraiment des gains.
Exactement, il faut se lancer de façon structurée, avec un plan, pour ensuite être crédible et aller chercher des financements. Et c'est les entreprises les plus matures sur cette approche qui ont tiré des avantages compétitifs. Et c'est la même démarche qu'il faut adopter sur l'adaptation. Mm-hmm. On pense aujourd'hui que l'adaptation est là où était la décarbonation il y a 5 ans. Donc c'est un sujet qui va mûrir. Celles qui seront les premières à se lancer sur ce sujet tireront les avantages demain.
Eh bien, merci à tous les deux. Mehdi Fouara, chef de projet senior au BCG, expert de ces sujets climat. Et Simon Guichard, associé chez Argos, qui est un fonds d'investissement qui soutient la croissance des PME des ETI européennes. Vous voyez, on a revu quelques poncifs que l'on pensait, mais j'aime bien l'histoire des gars rapides. Ouais, ça, c'est fini. Il faut vraiment penser à autre chose. Et puis, la décarbonation peut devenir un avantage compétitif. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. À très bientôt pour un nouvel épisode de BFM Stratégie avec le BCG.
BFM Stratégie sur BFM Business.